Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Alter Nantes, 98.1 FM à Nantes, 91 à Trignac-Saint-Nazaire. Ce soir, une émission en musique, comme vous pouvez l'entendre. Je vous laisse l'écouter, parce que quand même c'est des adhérents de la scène qui ont fait ça. On vous écouterait hein, pendant que je parle. Donc, ce soir, nous avons une émission un peu spéciale, c'est-à-dire c'est le compte-rendu de la conférence de Jacques Gapaillard qui a été... effectué en le mois de janvier lors de la semaine de l'astronomie, donc on vous parlera de ça. Donc il y a notamment la diffusion de son interview qui a été réalisée par Stéphane Lega et puis Gaël Vincent. Donc ça va être l'émission, va être consacrée à ce thème là qui était sur le problème de la rotondité de la Terre. On savait bien que la Terre était ronde, mais on savait pas de quel endroit elle était boursouflée. Donc ils vous expliqueront un peu tout ça ce soir. Une petite chose un peu spéciale, je ne sais pas si vous savez, comme certaines émissions, ce soir vous allez pouvoir gagner 10 places pour la prochaine conférence. Donc je vous pose déjà la question. Donc la question pour gagner des places, c'est: quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers? Quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers? Normalement c'est assez simple. Hein. Donc vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et vous nous donnez la réponse et vous allez pouvoir gagner une place pour la conférence que je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est la conférence de mardi prochain à l'auditorium de Beaulieu. Ça va être Jean Audouz, qui est astrophysicien et puis qui est notamment directeur du Palais de la Découverte. Et donc en fait, ça va être une conférence qui va être sur l'histoire de l'univers, un peu nous expliquer son évolution au cours de ces 15 milliards d'années, puisqu'à peu près il a 15 ans, et puis renforcer la fameuse théorie dont il faut trouver le nom pour répondre et gagner une place. Il y a une dizaine de places à gagner, donc si jamais vous téléphonez, vous donnez la bonne réponse, il n'y a pas de problème. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone, 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, vous répondez à la question: quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers? Et nos hôtesses masculines et féminines, parce qu'on a vraiment, c'est la parité, donc on a mis des hôtesses qui étaient des deux sexes, on n'a pas mis d'hermaphrodite, on est désolé, donc on s'est limité aux deux sexes en vigueur, donc ils vous répondent et puis vous gagnez une place. Voilà. Tout de suite, nous allons aborder la première partie de l'émission, c'est-à-dire la conférence de Jacques Gapaillard que va nous présenter rapidement Stéphane Lega.
Alors Jacques Gapaillard, en effet, nous a distillé une conférence passionnante le mardi 23 janvier, où il nous a, en fait, contrairement aux autres conférences...
C'était lors de la semaine de l'astronomie.
Voilà, donc lors de cette 11e semaine de l'astronomie, donc on a eu pas mal de choses sur lesquelles on reviendra par la suite. Mais Jacques Gapaillard nous a fait faire un petit voyage dans l'histoire, puisqu'il a essayé de nous faire sentir les différents problèmes et les différentes représentations que la Terre a eues au cours des âges.
Alors qui c'est Jacques Gapaillard?
Alors Jacques Gapaillard, il est professeur de mathématiques à la Fac des sciences de Nantes, et il enseigne également l'histoire des sciences, et en particulier l'histoire de l'astronomie au centre François Viette. Peut-être qu'on
en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure, le centre François Viette, qui est un centre d'histoire des sciences, en fait. Hein. Alors, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Et pourtant, elle tourne », donc aux éditions du Seuil.
Ouais. Très très bien ce livre.
Oui, qui traite non pas de la figure de la Terre, mais plutôt du problème du mouvement de la Terre. Comment est-ce qu'on peut détecter le mouvement de la Terre? Est-ce que c'est possible? Si oui, quelles implications ça a pu avoir?
Puis aussi, en fait, une fois qu'ils avaient dit que la Terre tournait sur elle-même, il y a eu pas mal de théories qui étaient contre. Il y a des démonstrations qui sont assez impressionnantes, c'est-à-dire des gens qui posaient des questions, notamment sur un caillou, c'est-à-dire qui tombait en tourbillon. Il y a vraiment des problèmes qui ne sont pas simples à notre époque à résoudre. Et c'est vrai qu'on dit que c'est simple de savoir que la Terre tourne, mais en fait, quand on voit ce que faisaient les opposants, ce qu'ils posaient comme question, il y avait quand même pas mal de problèmes physiques.
C'est un grand problème. Si on s'arrête à une intuition première, c'est pas si stupide de penser que la Terre est immobile.
Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fait un livre totalement historique, donc c'est un peu sa spécialité.
Alors, il est aussi en fait l'auteur de beaucoup de travaux sur Galilée et de correspondances scientifiques au XVIIIe siècle, notamment entre Euler et Lacaille, Euler et Lalande, Lacaille et Bayer.
Je ne sais pas s'il a parlé du temps, parce que c'est vrai qu'on est au XXIe siècle, hein, je ne sais pas si vous savez, mais donc là c'est le XVIIIe, mais je crois que la poste n'a pas beaucoup évolué en temps. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il met autant de temps pour aller d'un pays à un autre entre Lacaille et... Je sais pas, ça fait 3-4 jours, alors que maintenant on met toujours 3-4 jours. C'est oui. Impressionnant, quoi.
Ça dépend.
Donc, si les gens de la poste nous écoutent, accélérez le courrier, parce qu'autrement, on va vous donner les dates, vos horaires de passage en 18. Ouais, maintenant on a Internet. Mais faut pas le dire à la poste, parce que vraiment, c'est du papier. Excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, continue.
Alors, donc, on a rencontré donc Jacques Gapayer quelques jours après sa conférence avec Gaël. Et puis, on a essayé de dégager un petit peu les problèmes que pose cette représentation de la figure de la Terre. Enfin, on dirait plus à l'heure actuelle de la forme de la Terre. Est-ce qu'elle est vraiment ronde? Est-ce qu'elle est pas tout à fait ronde? Bon. Alors, en fait, je crois que je vais laisser parler Jacques Gapayer, puisqu'on a envisagé avec lui d'abord les problèmes à la fois philosophiques, scientifiques, et puis on a essayé d'aller un petit peu plus loin pour lui poser quelques questions sur son rôle d'historien, sur sa façon de travailler.
Non, juste avant de lancer le début de l'interview, il faut savoir qu'elle est découpée en plusieurs parties pour éviter pour qu'on puisse rappeler des commentaires. Voilà Gaël qui arrive. Ça va Gaël ?
Bonsoir.
Ouais. Donc, on va lancer la première plage. Hein. Donc allez-y, la technique, Frédéric, c'est à toi.
Jacques Gapayer, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez eu la chance d'inaugurer la semaine dernière la 11e semaine de l'astronomie, à laquelle on a pu parler d'étoiles, de trous noirs, de galaxies, de planètes. Mais lors de cette première conférence, vous nous avez fait non pas un voyage dans l'espace, mais un voyage dans le temps. Avec vos études, les études que vous avez réalisées en histoire des sciences, et en particulier en histoire de l'astronomie. Alors l'astronomie, c'est l'étude des astres, des étoiles, des planètes. En quoi est-ce que l'astronomie a permis de donner aux hommes une représentation de notre planète ?
Eh bien, l'astronomie, déjà au départ, a permis d'avoir cette idée que la Terre était sphérique, au moins en première approximation. Aristote donnait déjà des arguments pour la sphéricité de la Terre tirés de l'observation du ciel. Il donnait pour cela deux sortes d'arguments. Le premier consistant à observer les éclipses de lune et à constater que la ligne de démarcation entre l'ombre et la lumière sur la lune, donc le bord de l'ombre porté par la Terre sur la Lune, était incurvé, était circulaire. Alors, bien sûr, la permanence de ce genre de constatation militait fortement en faveur d'une Terre sphérique. Si on avait fait cette constatation une fois et puis si on n'avait plus jamais regardé les éclipses de Lune, bien sûr, on sent bien qu'il y aurait pu y avoir des circonstances particulières qui auraient fait que la Terre non sphérique projette quand même une ombre circulaire sur la Lune. Mais comme c'était toujours le cas, c'était donc une forte indication pour la sphéricité de la Terre. Et une autre observation du ciel aussi qui militait en faveur de cette sphéricité, ou du moins en faveur d'une Terre à la surface incurvée, c'était l'observation des étoiles lorsqu'on se dirige vers le nord ou vers le sud. Alors on voit apparaître de nouvelles étoiles, on ne voit plus des étoiles qu'on voyait auparavant, et ça c'est un argument qui est donné explicitement par Aristote pour appuyer la sphéricité de la Terre. Cette sphéricité qui avait déjà été annoncée, enseignée par Pythagore, mais Pythagore c'était plutôt pour des raisons d'esthétique, parce que la Terre c'est une sphère, on sait que Pythagore attachait beaucoup d'importance aux figures géométriques, aux belles figures géométriques comme la sphère dans l'espace, alors il trouvait normal que les astres et que la Terre aussi aient une figure sphérique, mais bien sûr on ne sait pas beaucoup de choses sur ce que pensait vraiment Pythagore, et est-ce qu'il s'appuyait sur des observations, apparemment pas.
Alors, ce que vous nous évoquez date de la civilisation grecque. Concernant notre civilisation un peu plus occidentale, donc dans l'Europe, parce que votre conférence parlait un petit peu des civilisations françaises, l'Académie des sciences de Paris, est-ce que donc la première étape, comme vous l'avez rappelé, a été de montrer la sphéricité de la Terre. Comment se fait-il que, partant de la civilisation grecque, dont on a hérité une grande partie de leur culture. On est repassé dans une civilisation quasiment pré-socratique durant le Moyen-Âge où on repensait que la Terre était plate et en fait qu'elle, à partir du 15e, 16e, voire 17e siècle, qu'est-ce qui nous a fait repenser que la Terre était ronde finalement ?
Eh bien, toutes les connaissances ou la plupart des connaissances de la science grecque qui avait atteint un haut niveau de développement au 1er, 2e siècle de notre ère, ceci a été oublié pour des raisons diverses, la chute donc de l'Empire romain, le fait même avant la chute que les Romains ne s'intéressaient pas vraiment aux sciences, mais bien davantage à la technique, à l'architecture. Et puis il y a eu aussi la montée du christianisme. Il se trouve que les pères et docteurs de l'Église au début du christianisme n'étaient pas favorables à la science, parce que la science c'était d'abord une science païenne, et puis faire de la science et détourner les hommes de Dieu. Donc il y a eu cette régression formidable de la science, des connaissances scientifiques, et les pères de l'Église, certains d'entre eux, enseignaient que la Terre était tout simplement plate. Mmh. Alors ce qui s'est passé, c'est vers le 8e, 9e siècle, les Arabes ont découvert la science grecque, et ça les a prodigieusement intéressés. Et comme on sait que les Arabes sont venus jusqu'en Espagne, eh bien ils en ont fait profiter les clercs chrétiens, et qui n'ont pas été moins intéressés que les savants arabes par cette science qui était complètement nouvelle pour eux. Et c'est donc la redécouverte de la science grecque, c'est une sorte de renaissance qui s'est produite au début du second millénaire. La redécouverte de la science grecque a eu lieu à ce moment-là, et la Terre est redevenue.
Donc la Terre est redevenue ronde, comme l'avait dit Jacques Gapaillard.
Alors si on revient un petit peu en arrière pour commenter tout ça, je pense que ce qu'il est intéressant de noter, pour bien comprendre un petit peu, notamment dans l'Antiquité, il n'y avait pas de distinction entre la physique, la biologie, la philosophie. En fait, tout était histoire de philosophie, si on veut. Donc impliquer une représentation de la Terre, ça impliquait énormément de choses sur la philosophie en général.
Surtout que les scientifiques, c'est vrai qu'ils avaient multi-cartes à maintenant, entre guillemets, hein. Un astronome, il n'est que astronome, mais c'est vrai que dans l'époque, il touchait un peu à tous les domaines.
À l'époque, et en même temps, c'est relativement récent, dans la mesure où, même au début de ce siècle, à l'université, on appelait la matière philosophie naturelle, donc une branche de la philosophie qui s'intéressait non seulement à des concepts épistémologiques, c'est-à-dire la définition des sciences, l'histoire des sciences, mais en même temps les calculs eux-mêmes et tout le raisonnement scientifique et les concepts. Donc là,
D'ailleurs, Newton, hein, son principe, les principia Newton, c'est les principes de la philosophie naturelle.
Les principes mathématiques de la philosophie.
Ouais, qui sont en fait avant la physique, quoi.
Alors, si on se remet encore un petit peu dans l'Antiquité, on peut parler un petit peu d'Ératosthène, puisque impliquer que la Terre est ronde, ça veut dire qu'a priori, on peut calculer son rayon. Mmh. Donc l'une des préoccupations des gens de l'époque, c'était de se dire, si elle est ronde, elle est grande comment ?
Alors, on a abordé le point, mais tu peux continuer, il est abordé, je crois, dans la dernière émission. Ah oui. Mais c'est le champion qui s'est attelé là. Mais bon, fais un résumé.
Juste un petit résumé très rapidement. C'est en fait l'un des premiers, alors savoir si c'est le premier ou non, je ne sais pas, mais enfin, l'un des premiers qui a déterminé le rayon de la Terre, c'est Ératosthène, par une méthode très, très ingénieuse de mesure d'ombre entre deux points. Donc il suffit, entre deux points sur la Terre. Donc il suffit en fait de mesurer l'angle entre deux ombres différentes. Bon, je schématise.
Avec des poteaux, par exemple.
Oui. Alors, Ératosthène, il l'a fait avec un puits. Alors, c'est Alexandrie et puis Sienne. Je crois que c'est l'obélix, mais c'est peut-être l'inverse. Je sais plus. En fait, il y avait le soleil qui était perpendiculaire dans le puits, qui tombait directement, donc ça lui faisait un angle de 90 degrés. Mmh. Et puis, le même jour, entre guillemets, il avait un copain, c'est un peu schématique, qui a mesuré l'angle de l'ombre qu'a fait l'obélix. Et en fait, avec les deux, ils avaient un angle. Et puis, à partir de là, ils savaient la distance entre Sienne et Alexandrie.
Si on veut aussi reprendre un petit peu l'environnement de l'époque, l'environnement philosophique ou culturel, c'est l'époque aussi, l'antiquité d'Épicure, Démocrite, donc la naissance de l'atomisme. Alors peut-être pas l'atomisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais du moins une théorie embryonnaire de l'atomisme.
Oui, on peut rappeler que atome, en fait, ne veut dire autre chose que indivisible, insécable. Si on prend les deux parties du mot, a, le préfixe a privatif, et tome, les tomes d'une encyclopédie, les différents morceaux, eh bien, atome, c'est-à-dire qu'on ne peut plus diviser. On peut considérer, toujours dans cette représentation de la matière, une division d'un corps quelconque, de l'eau, etc. Il y a un moment donné, on ne pourra plus divisé par deux, par exemple, un corps quelconque. Alors j'aimerais bien revenir sur au sujet donc la recherche de la forme de la Terre. Une preuve à l'époque, c'était aussi pour prouver déjà que la Terre était ronde. Les Grecs et même les Babyloniens l'avaient trouvé à l'époque. Et c'est d'actualité. C'est les éclipses de lune, tout simplement, les éclipses de lune qui permettent d'observer que la Terre est ronde. L'ombre de la Terre est projetée sur la Lune au moment où la Lune entre la pénombre et l'ombre totale de la Terre. Et d'ailleurs, on observe, grâce à la diffraction atmosphérique de la lumière solaire, des couleurs vraiment rouge-chambre magnifiques. Mais en dehors de ça, durant le phénomène, on observe une ombre incurvée. Et ce n'est rien d'autre que nous, la Terre.
Voilà, pour juste expliquer encore un peu mieux, c'est-à-dire que si vous mettez n'importe quel objet pour que ça fasse de l'ombre entre une lampe de poche, par exemple, et votre mur, la seule possibilité pour que ce soit toujours une ombre ronde, c'est d'avoir une sphère. Parce que si vous avez une pièce de 20 centimes ou de 10 francs, si vous l'inclinez un peu, eh ben, ça va devenir un ovale. Alors que sur la Lune, il était projeté tout le temps un cercle. Donc en fait, c'était même plus que savoir qu'elle était ronde, c'est savoir que c'était une sphère. C'était ça, en fait, qui était en plus très, très fort.
Alors, c'est vrai que par la suite, alors si on se projette un petit peu plus loin, on voit qu'il y a ici un outil technique qui est une lunette qui va, en fait, induire des choses fantastiques. Rien qu'en regardant Jupiter et puis ses satellites, on s'aperçoit que... juste en regardant Jupiter, simplement, on s'aperçoit que Jupiter, elle a une forme particulière. Donc, pourquoi pas la Terre ? Alors, évidemment, là, je parlais des satellites, parce que les satellites, ça va aussi changer notre point de vue et puis se dire qu'on n'est peut-être pas, finalement, le centre du monde. Mais si on s'intéresse simplement à notre problème, la lunette supporte, en fait, une idée ou des idées donc qui vont être véhiculées à la suite de Galilée.
Donc, après ce petit préambule historique sur la représentation de la Terre à travers les âges, on va maintenant s'intéresser à revenir à des problèmes plus physiques, à savoir...
Sur lesquels tu es plus spécialiste.
Dans quelle mesure on a un corps sphérique, les astéroïdes, tout ça, dans l'univers, on a une diversité de formes, et au-delà d'une certaine masse, eh bien, Jacques Capagnard nous raconte ce qui se passe.
Alors, une fois redevenue ronde, donc une fois rétablie cette sphéricité, tout d'un coup, elle n'est plus tout à fait ronde. Alors, comment est-ce qu'on est revenu ensuite à penser que la sphéricité, c'est un modèle un petit peu simple, et qu'il fallait corriger ce modèle ?
Oui, bien, certains indices ont en effet... fait penser que peut-être n'était-elle pas tout à fait ronde. C'est déjà l'observation des planètes. L'observation de Jupiter, en particulier, lorsque les lunettes ont eu des performances accrues. Cette observation a montré d'abord que Jupiter tournait, parce qu'on observait, on voyait au moins la grande tache rouge de Jupiter. Jupiter tourne d'un mouvement axial, tourne sur elle-même, et cette rotation est même très rapide. Et on voyait en même temps que Jupiter était nettement aplati, suivant son axe de rotation, c'est-à-dire aplati à ses pôles. Donc de là à penser que, puisque la Terre tournait aussi, elle serait également aplatie, il n'y avait qu'un pas. Et ensuite, il y a eu des travaux théoriques, ceux de Newton et de Huygens, qui, chacun de leur côté, ont fait des calculs et ont montré que, en effet, la Terre devrait être, selon eux, aplatie au pôle.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler vite fait, maintenant on revient à la physique un peu indépendante de l'histoire, est-ce qu'on peut rappeler comment se fait-il que pour un corps assez massif dans l'univers, comme une étoile ou une planète, comment se fait-il qu'un, qu'on ait des objets sphériques, alors qu'à partir d'une certaine taille, comme les astéroïdes, on ait des choses complètement difformes. Est-ce que c'est lié en fait à l'attraction, à la pesanteur, à la gravitation universelle qui, comme ça, structure tel objet de manière sphérique?
Oui, bien c'est tout à fait ça. Et là, on rejoint un troisième argument d'Aristote, mais dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il s'agissait d'arguments tirés de l'observation du ciel. Aristote, lui, pensait d'abord que la Terre était immobile, et que le centre de la Terre coïncidait avec le centre du monde, et que le centre de la Terre, c'était le lieu naturel des corps pesants, des graves, comme on disait par la suite au Moyen-Âge et plus tard. Et c'est-à-dire que tous les corps pesants avaient une tendance à se diriger vers le centre de la Terre et que la Terre était constituée par l'agglomération de ces corps pesants. Et cette agglomération, devant s'opérer apparemment de façon symétrique, Aristote dit que nécessairement la Terre devait prendre une forme sphérique. Donc ceci répond tout à fait à votre question, parce que c'est le même argument que l'on peut invoquer aujourd'hui pour dire que la plupart des astres, s'ils sont suffisamment massifs, simplement par effet gravitationnel, adoptent une forme d'équilibre qui est sphérique ou à peu près sphérique.
Suite aux observations de Jupiter, maintenant les travaux théoriques que vous nous avez évoqués, que les chercheurs successeurs à ceux qui ont observé Jupiter ont commencé à faire, est-ce qu'ils ont commencé à se poser des questions sur le moment cinétique d'une planète qui fait que lorsqu'elle tourne sur elle-même, elle a tendance à s'allonger sur son plan de rotation et à s'aplatir parallèlement à l'axe de rotation. Est-ce qu'ils ont commencé à utiliser les travaux qui venaient directement d'Angleterre, ceux de Newton?
Oui, bien justement, il y a eu des travaux, on ne parlait pas de moment cinétique à cette époque-là, mais à la suite des calculs de Newton, d'autres calculs ont été faits sur le continent qui confirmait que la Terre devrait, selon la théorie newtonienne, devrait adopter une figure d'équilibre aplatie, et même de façon précise, une figure d'équilibre qui soit un ellipsoïde de révolution aplatie, c'est engendré par la rotation d'une ellipse autour de son petit axe.
Alors à vous, c'est à vous de parler, Gaël et puis Stéphane, parce qu'ils étaient en train de parler de l'interview pendant qu'on l'entendait.
Toujours des petites mises au point, mais tout ça pour dire, et on était très attentifs à l'interview de Jacques Appaillard, pour reprendre ces mots, il y a effectivement une grande diversité de formes dans l'univers, en dehors des étoiles qui sont sphériques. On va s'intéresser donc dans notre système planétaire, dans les systèmes solaires, il y a par exemple des astéroïdes, des planètes gazeuses géantes, des planètes telluriques et des satellites plus ou moins gros qui, selon leur masse, vont être sphériques. Alors on l'a dit, la condition sine qua non d'avoir en fait une forme sphérique, c'est un seuil de masse. Un seuil de masse qui permet en fait, pour des raisons de symétrie, par rapport au centre du corps, d'attirer uniformément tous les éléments superficiels et comme ça d'uniformiser la surface. A contrario, comme la ceinture d'astéroïdes, des éléments constitutifs de cette ceinture ou d'autres corps, des petits corps comme les satellites de Mars, Phobos et Deimos, sont difformes parce que, à l'époque par exemple de la genèse du système solaire où c'était des corps magmatiques, où donc ils étaient malléables, eh bien la gravité n'était pas. Leur propre gravité pour qu'ils s'effondrent sur eux-mêmes n'était pas suffisante pour qu'ils deviennent ronds.
Alors est-ce que ça peut supposer une origine des satellites? Parce que finalement, l'origine de Phobos et Deimos par rapport à l'origine de la Lune, est-ce que c'est la même ou non?
Eh bien. C'est un petit peu particulier dans le cas de la Lune. Il y a plusieurs suppositions. Le cas de la Lune, c'est un peu comme, joliment dit, la femme née de l'homme. C'est-à-dire, je crois que c'est de Zeus, la côte de Zeus qui est la femme.
Non, d'Adam. T'es pas très loin à la Bible. Ouais.
Hein. Ah oui, c'est
elle qui est faite à partir de la côte d'Adam. De Zeus.
Et ben là, c'est pareil. La Lune, elle est née en fait d'une collision énorme entre un météorite et puis la croûte terrestre. Et ont été éjectés.
Tu parles de ça, il y a par exemple une vision philosophique de Barjavel, Je ne sais pas si vous connaissez Barjavel.
Non, vas-y.
Barjavel qui, en fait, donne une raison génétique, en fait, à ça, puisque l'homme est XY et la femme est XX. Et en fait, le Y qui manque, ce serait, en fait, la côte d'Adam, quoi, qu'il aurait donné.
Oh là là.
Voilà, c'est juste pour
ah, oui.
La poésie.
Pour revenir au thème de Jacques Apayard, donc le problème, donc, on vient d'évoquer les conditions de séricité d'un corps.
Tu n'as pas fini, mais... par contre, sur ton explication, je te coupe. Hein. Simplement, tu as dit qu'en gros, la Lune, oui. ça, elle était sortie, en fait, de la croûte de la Terre. C'est qu'un gros objet qui a tapé dedans, mais qui n'a pas détruit la Terre, qui l'a éraflé, qui a enlevé une grosse partie de sa masse, ça fait la Lune. Mmh. Par contre, Phobos et Deimos seraient plus des outils, des objets capturés.
Capturés, c'est-à-dire des éléments, des astéroïdes qui auraient fui de la ceinture et qui auraient été captés dans la gravité de Mars.
Ouais, ils avaient des problèmes avec leurs copains, donc ils sont venus voir Mars, quoi.
Donc maintenant,
cette ceinture d'astéroïdes étant peut-être elle-même une seule planète qui aurait été...
Voilà, alors il y a d'autres hypothèses, effectivement. Donc on a planté le décor, la Terre, on a montré à travers l'histoire qu'elle était ronde non seulement par les observations mais par sa masse aussi, de manière théorique, de manière physique. Mais le problème c'est que c'est un corps en rotation, donc un corps en rotation comme une toupie par exemple, eh bien il y a une sorte de force centrifuge, un moment cinétique qui est en fait éjecte vers l'extérieur les régions équatoriales. C'est-à-dire perpendiculaire.
Donc, comme une fronde, en fait. Comme lorsqu'on jette une fronde, il y a donc une force centrifuge.
Voilà.
Ou un tourniquet aussi, quand on est dans
le tourniquet. Une sorte de force centrifuge.
Vous donc, partez vers l'extérieur.
Là, on donne la réponse un peu avant ce que va évoquer Jacques Apayard et les scientifiques de l'époque qui ne savaient pas trancher entre une Terre allongée ou une Terre aplatie. Eh bien, c'est cette force centrifuge et cette rotation qui semblerait être à l'origine de l'aplatissement des pôles, notamment. Voilà.
Alors c'est vrai que par la suite, pour enchaîner un petit peu avec ce qu'on va voir tout à l'heure après la pause musicale, c'est vrai que cette représentation de la Terre, est-ce que la Terre est bien ronde ou non, en fait va enchaîner tout un débat, et un débat crucial pour l'époque, puisque à l'époque, il y avait en fait les cartésiens qui avaient réussi à s'imposer en France, et puis les newtoniens qui, eux, par le biais de certains comme Maupertuis, vont essayer en fait d'amener la philosophie et puis la théorie de Newton. Donc en fait, ça va être réellement un débat entre les partisans des deux camps. Mais
en plus, les deux camps étant en français et anglais, ce qui n'aide pas.
Oui.
Non, mais en plus, il y a un peu les rivalités, chauvinisme de chaque côté. Vous êtes en direct sur Alternante avec la Société de l'Astronomie de Nantes dans l'émission Pulsane, tous les lundis des semaines paires. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour... la conférence de demain, l'histoire de l'univers par Jean Audouze à l'auditorium, c'est tout bête. Vous nous appelez au 02 40 93 26 62 et vous répondez à la question « Quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers ?» Le nom populaire de la création... Le nom populaire de la théorie de la création de l'univers. Et donc là, si vous répondez à la bonne question, vous avez gagné une place gratuite. Tout de suite, nous allons parler, changer un peu de sujet, parce qu'on a commencé l'émission avec Jacques Apayard, voilà, continue tout à l'heure. Mais là, on va faire, pas une pause musicale, mais une pause stellaire. On va parler du ciel du mois avec notre ami Pierre Simoneau. Alors, Pierre, toi qui reviens du ski... T'as dû en profiter quand même au niveau du ciel là-bas, non?
Bien sûr.
Hein? Ça devait être un beau ciel. Pyrénées, Alpes?
C'était un très beau ciel, merveilleux.
Bon, bah alors, donc qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Pour ceux qui vont y aller au ski, par exemple.
Alors donc, puisqu'on doit parler du mois, précisons que le mois, on va parler du 20 février au 15 mars.
Oui, quand on dit le ciel du mois, c'est un mois calendaire.
C'est le mois
calendaire.
Entre aujourd'hui et le 15 mars. Alors, les phénomènes astronomiques de ce mois à venir sont peu nombreux. Enfin, on va essayer de les lister quand même.
Important, parce qu'il y a toujours les étoiles à voir et les galaxies, etc.
Alors, on va parler de la Lune, le premier. Le 20 de ce mois, elle est à son apogée.
Donc demain.
Demain, oui. Je précise que l'apogée, c'est la distance la plus éloignée de la Terre. Et donc, elle sera à 406 332 km. Le dernier quartier aura lieu jusqu'au 23, et puis après la nouvelle lune jusqu'au 3, et enfin on retrouve le premier quartier à partir du 3 mars. Du 25 au 27, possibilité de voir la lumière cendrée. C'est quoi cette lumière cendrée?
Ça n'a rien à voir avec les clopes, etc.
Non. C'est les reflets. C'est le reflet. De la lune, on verrait la Terre pratiquement en pleine Terre, et ce sont les reflets du Soleil qui passent par la Terre, qui viennent éclairer la Lune. Donc ça nous donne la lumière cendrée. Et là, la lumière sera très forte, puisque la Lune, la Terre sera pratiquement en pleine. et on aura possibilité avec une paire de jumelles de voir même les détails dans la partie cendrée. Autrement, 1er mars et 2 mars, conjonction de cette lune avec Saturne d'abord, puis Jupiter.
Rappelle un peu ce que c'est une conjonction.
Alors la conjonction, c'est le rapprochement
de deux astres.
Donc dans le cas, c'est la lune avec Saturne et la lune avec Jupiter.
Donc ceux qui veulent faire de la photo, c'est le moment, voilà. Ça rend toujours des effets sympas.
Le 8 mars, la Lune maintenant est à son périgée, c'est-à-dire à la distance au plus près de la Terre, à 359 000 km. Ensuite, Vénus qui tient la vedette tout le mois, puisqu'elle brille très fortement dans le ciel. Donc, conjonction avec la Lune le 26 février. Vénus est à voir donc, sous la forme d'un très joli croissant, qui s'affine de jour en jour, ce qui fait que la magnitude de la Lune, la magnitude de Vénus, va diminuer.
Donc c'est le soir à peu près qu'il faut la voir.
C'est le soir à voir, c'est ça. Elle est très facile à suivre avec des jumelles. Mercure est très bas dans le ciel, donc difficile à observer.
Étant très proche du Soleil, en général, elle est très dure à voir.
Voilà, c'est
ça. Il y a pas mal d'astronomes c'est qui ça. N'ont pas vu Mercure dans un télescope,
oui,
par exemple.
Parce que, oui, en plus de ça, donc, elle va être en conjonction avec le Soleil à la fin du mois, pratiquement. Ensuite, Mars, elle précède la constellation du Scorpion, visible à partir de 2h du matin, en temps universel. Mars est donc en plus de ça en conjonction le 21 avec Bêta, une étoile double du Scorpion.
Donc Bêta, c'est la deuxième étoile la plus brillante
du Scorpion.
Du Scorpion.
Hein, puisque la plus brillante,
c'est Alpha, Beta, Gamma, etc.
C'est une conjonction très serrée. Hein. L'étoile rouge est encore un tout petit point dans le ciel. On a du mal à déceler des détails précis tels que la calotte glaciaire. Le 5 mars, elle est en conjonction avec Antarès, donc l'étoile la plus brillante du Scorpion. Son diamètre croît rapidement, donc je parle bien de Mars, hein, le diamètre croît rapidement, et elle va effectuer sa boucle de rétrogradation en tête du Scorpion.
Donc elle va la commencer ce mois-ci, là.
Pardon ?
Elle va la commencer maintenant, la boucle.
Oui, elle commence à partir du début mars.
Hein. Ah ouais, d'accord.
Le début mars. Hein. Le 15 mars, conjonction avec la Lune pour Mars. Donc voilà pour Mars les principaux phénomènes. Jupiter, le 20, donc demain, est à la quadrature Est. Son diamètre diminue, mais elle reste quand même une belle cible, puisque très 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 brillante. Saturne, son diamètre également diminue tout le mois. Elle est observable au début de nuit. Et à voir sur Saturne actuellement l'ombre du disque sur les anneaux.
Très sympathique.
Bon, Uranus et Neptune sont inobservables. Nous ne parlerons pas de Pluton, qui est pareil, qui suit Mars, mais qui est difficile à voir. Juste un petit mot sur le Soleil pour dire qu'entre le 15 de ce mois et le 15 du mois prochain, il va gagner 1h41 par an. On va gagner 1h41 par jour. Dernier point par rapport au phénomène. Fin février, la lumière zodiacale. C'est quoi cette lumière zodiacale ? C'est une lueur qui ressemble à la Voie lactée, en plus faible. Elle provient de la réflexion des rayons solaires sur les disques de poussière qui se trouvent à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. Pour la repérer, premièrement, il faut un ciel clair, limpide, ne pas avoir de pollution lumineuse, bien entendu. Et on peut la voir, et elle apparaît au long de l'écliptique, qui est facile à repérer actuellement, donc avec Jupiter, Saturne et Vénus. Donc, facile à repérer, bien sûr, si les conditions que j'ai énoncées sont suivies. Donc, pour ceux qui veulent, bon courage et puis bonne observation.
Donc, tu peux nous présenter, parce qu'on parle souvent des planètes, parce que c'est comme les choses les plus facilement visibles, on peut vous expliquer les galaxies, il faut déjà avoir un télescope. Très, très rapidement, Pierre, tu as parlé un peu des jumelles, est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide?
Très, très rapidement, les jumelles restent...
Savoir que toutes les jumelles que les gens ont chez eux, ça peut devenir un instrument astronomique. Bon, il y a certains qui sont mieux que d'autres, mais il faut l'utiliser.
C'est ça, sous certaines conditions. Rapidement pour les lunettes, un bref panorama des avantages et des inconvénients, enfin des avantages et conseils pour choisir des jumelles.
Rapidement.
Bon, elles ont beaucoup de... Leur facilité d'utilisation, pas de problème de suivi de la rotation de la voûte céleste. Leur poids et volume, c'est souvent faible et facile à transporter. leur luminosité et confort visuel, le diamètre de l'objectif peut être important et leur grotissement peu élevé. Pupilles de sortie et indices crépusculaires les rendent souvent imbattables pour observer les objets faibles et diffus. Leur vision binoculaire, elle fournit un confort remarquable pour les reconnaître, pour reconnaître de nombreux détails.
Il ouais, ne faut pas oublier qu'au télescope, on regarde qu'avec un œil. Il ne faut pas oublier qu'au télescope, on ne regarde qu'avec un œil.
Ouais.
Donc les jumelles, on regarde avec les deux. Et puis enfin, si on en avait deux, il faut mieux en profiter. Quoi.
Et enfin, le prix, ben, elles sont toujours plutôt en diminution. Les prix baissent en ce moment.
T'as encore quelque chose à dire sur les jumelles?
Oui, encore quelque chose à dire, très rapidement.
Vas-y, encore plus rapidement.
Alors, les jumelles à éviter.
J'ai mis à Pierre très rapidement, il fait un truc de deux heures, mais très rapidement. Vas-y.
Les jumelles à éviter. Bon, les jumelles dites de théâtre. Les jumelles composées de lentilles en plastique. Les jumelles à zoom. Et puis, les types, les trop peu lumineuses, les 8-20, les 8-10 et 8-25. Hein.
Ouais. Tout ce qui est 8, déjà, c'est pas génial.
À zoom, il faut éviter.
Alors, juste un tout petit mot en plus sur le mode d'emploi. Le grossissement, le diamètre des objectifs, ils sont indiqués le plus souvent sur les oculaires. Par exemple, 10-50 signifie grossissement 10 fois et objectif de 50 mm de diamètre. Indice crépusculaire indique le degré de visibilité d'un objet en lumière faible. Plus les chiffres obtenus est important, plus grande est l'efficacité. Ce diamètre est important car il tient compte aussi du grossissement. La pupille de sortie, c'est le rapport entre le diamètre de l'objectif exprimé en millimètres et le grossissement. Plus cette pupille de sortie est proche de celle de l'œil, dans les conditions complètes d'obscurité, 7 mm pour un enfant et 4 mm pour un adulte, plus les jumelles sont efficaces en observation nocturne. Dernier point, champ apparent, c'est la position. La portion de ciel ou de paysage terrestre visible dans l'oculaire.
L'avantage, c'est quand ça grossit moins, on voit un champ beaucoup plus grand.
Voilà.
Donc, un retour à notre exploration du temps avec Jacques Gapaillard, l'histoire de la représentation de la Terre. Et cette fois, nous allons aller au cœur du sujet, puisque, après avoir présenté bien l'évolution de la représentation de la Terre à travers les âges et le problème physique de la sphéricité de la Terre, eh bien, on va savoir quel a été ce tour de force des astrophysiciens de l'époque, eh bien d'orienter le débat vers une non-sphéricité, et laquelle ? Alors, Terre allongée ou une Terre aplatie au pôle ?
On va pouvoir rencontrer des acteurs, enfin des noms du moins, qui vont en fait parler à tout le monde. Par exemple Cassini, puisqu'on parle sur les anneaux de Saturne de la division de Cassini, on va s'apercevoir que Cassini a eu un rôle prépondérant dans cette histoire.
Maupertuis et même Newton. On écoute.
Alors en 1609, Galilée perfectionne sa lunette. En 1666, l'Académie des sciences est créée en France. Elle va attirer beaucoup d'hommes très prestigieux, comme par exemple Cassini qui va prendre part au débat. Cette Académie des sciences, elle est le lieu effectivement d'une polémique entre les partisans d'un aplatissement de la Terre, c'est-à-dire les Newtoniens, et les partisans d'un allongement de la Terre, les Cartésiens. Qui est dans quel camp? Quels sont les acteurs de ce débat?
Alors ce débat ne s'est pas constitué immédiatement. Il s'est constitué après que des mesures géodésiques qui étaient censées pouvoir décider de la forme de la Terre, ces mesures géodésiques semblaient montrer que la Terre était non pas aplatie, mais allongée. Alors la Terre allongée selon son axe de rotation, allongée donc vers les pôles, c'était une conclusion qui était contraire à la prédiction de Newton et de Huygens, enfin de Newton en particulier. Alors, comme les théories de Newton dérangeaient un peu sur le continent, ça a été l'occasion justement de cristalliser un peu les partisans et les adversaires de cette théorie. Alors parmi les adversaires de cette théorie, il y a eu justement Cassini, et je dirais même les Cassini, parce que les Cassini se sont succédés de père en fils à l'Observatoire de Paris pendant quatre générations. Et donc les trois premiers Cassini étaient des cartésiens, dans le clan cartésien. Tandis que dans le clan newtonien, il y avait des gens comme Maupertuis en particulier. Enfin, je cite celui-ci parce que c'était l'académicien newtonien peut-être le plus convaincu, ou en tout cas celui qui s'est posé le premier en newtonien, dans une ambiance qui était quand même en général plutôt hostile ou méfiante vis-à-vis des théories de Newton. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les cartésiens avaient élaboré plus ou moins, enfin certains d'entre eux, des théories d'inspiration cartésienne pour justifier le fait que la Terre devrait en effet, si elle n'était pas sphérique, être plutôt allongée vers les pôles.
Alors avant de s'intéresser à l'argumentaire scientifique des uns et des autres, pour expliquer toute leur investigation, on peut quand même souligner le mérite à cette époque-là des scientifiques. Ce mérite était d'autant plus grand que, contrairement à aujourd'hui, ils étaient sur Terre, ils voulaient savoir, ils n'avaient pas de vue d'ensemble de la Terre, comme nous on peut en avoir lorsque, grâce à nos astronautes qui partent en conquête spatiale ou en orbite autour de la Terre, eux, ben, ils ont la conviction de la forme de la Terre. Et finalement, c'est comme si on était dans une maison à l'intérieur et qu'on voulait savoir comment était fait l'extérieur tout en restant à l'intérieur d'une maison. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire explicitement, nous parler de expérimentalement comment ils ont pu alimenter leur argumentaire en, par exemple, sous ordre royal, envoyer des expéditions au pôle essayer de comprendre quelle était la forme réelle de la Terre et essayer de tirer une conclusion sur qui avait raison.
Oui, alors justement, déterminer la forme de la Terre lorsqu'on marche dessus, c'est pas évident a priori. Et pourtant, les astronomes, les savants de l'époque disposaient d'un moyen, en principe, très simple pour en décider. Et ce principe consistait à faire des mesures sur le long du méridien, d'un méridien ou de plusieurs méridiens, peu importe, et de mesurer donc le long d'un méridien un arc de méridien d'une amplitude donnée en latitude, mettons 1 degré, c'est-à-dire 1 degré de différence de latitude entre les deux extrémités du méridien, de l'arc de méridien, et de mesurer quelle était la longueur d'un tel arc. Alors un arc de 1 degré de méridien, vous le prenez n'importe où, si la Terre est sphérique, il aura toujours la même longueur. Mais si la Terre n'est pas sphérique, alors la longueur va varier. Et là, tout le monde était d'accord, aussi bien les newtoniens que les cartésiens, pour dire que si les degrés de méridien étaient plus longs quand on allait vers les pôles que lorsqu'on s'approchait de l'équateur, c'était l'indication que la Terre était aplatie. Au contraire, si les degrés de méridien étaient plus courts vers les pôles que vers l'équateur, c'était l'indication que la Terre était allongée. Alors il n'y avait plus qu'à faire des mesures.
Mais c'était un travail de fourmi.
Alors c'était un travail difficile parce que la Terre n'est pas sphérique, mais enfin elle n'est quand même pas très éloignée de l'être. Donc si des différences sont à observer, elles sont quand même relativement faibles. Alors dans un premier temps, c'était sur ce principe-là que les Cassini avaient considéré que la Terre était plutôt allongée. Parce que les mesures qu'il faisait en France, le long de la méridienne de l'Observatoire de Paris, ces mesures indiquaient des degrés qui semblaient plus longs vers le sud que vers le nord. Alors on aura objecté que leurs mesures n'avaient peut-être pas l'extrême précision qu'ils prétendaient, il y a nécessairement des erreurs de mesure, et que le territoire de la France n'était pas suffisamment étendu pour que l'on puisse observer des différences significatives. D'où l'idée de comparer des degrés de méridien pris à des latitudes beaucoup plus différentes que celles qu'on peut observer sur le territoire français. D'où une première expédition qui a été envoyée au Pérou, en fait actuellement ce serait l'état de l'Équateur, donc tout près de l'Équateur justement, pour aller y mesurer un degré de méridien qui devait être comparé avec les mesures faites en France. Et cette expédition était partie quand l'idée est venue à Maupertuis de susciter une autre expédition qui elle serait envoyée vers le nord, en Laponie. Alors effectivement, c'est ce qui s'est produit, et on a fait une seconde mesure d'un arc de méridien en Laponie, actuellement c'est en Laponie finlandaise. Ainsi on avait un écart considérable entre la latitude à l'équateur et qui est donc nulle ou presque, et la latitude en Laponie, et la différence, s'il y avait une différence, elle risquait d'être davantage significative que de telles comparaisons faites seulement à l'intérieur du territoire français. C'était ça l'esprit de ces expéditions. Et ces expéditions ont montré que Newton avait raison.
Donc Newton, il a raison apparemment, c'est ça. Alors vas-y Stéphane.
Alors on vient de voir qu'effectivement tout ce débat met en scène des choses totalement pittoresques, picaresques même, avec des expéditions extraordinaires au Pérou, en Laponie, où il y a des ambitions personnelles qui sont en jeu, notamment celle de Maupertuis. Mais alors finalement, si on regarde un petit peu plus près, on se rend compte avec le recul que le jugement qui a été fait à l'époque, si on devait le refaire, il y a vraiment des choses extraordinaires à revoir, notamment que Maupertuis n'avait pas fait des mesures si extraordinaires que ça, pour établir qu'effectivement Newton avait raison. Mais alors, il y a une chose qui est en fait importante, c'est que le gros problème, ce sur quoi en fait ils ont un petit peu tous buté.
Parce que les premières mesures étaient fausses, les premières mesures géodésiques, effectivement, si à ce que on dit Jacques Gapaillard, confirmait plutôt la théorie de cartésienne des Cassini, qui eux allaient en faveur d'une Terre plutôt allongée. Contrairement à la réalité, donc suivant l'axe des pôles, et les premières mesures géodésiques allaient justement
Même si les mesures étaient bonnes, il y avait un gros problème de déterminer où se trouve la verticale. Bah, disons, lorsqu'on essaye de déterminer quelle est la position d'une étoile dans le ciel, on peut la faire par exemple par rapport à l'équateur céleste, et il faut donc à ce moment-là un fil à plomb. Enfin, par rapport à l'équateur ou par rapport à l'étoile polaire. À ce moment-là, il faut un fil à plomb. Donc pour déterminer la verticale, et puis ensuite on peut induire des angles pour savoir à quelle latitude on se trouve.
Et alors est-ce que le fil à plomb, il indique le centre de la Terre ?
Alors le fil à plomb, il indique pas en fait le centre de la Terre, il indique la verticale du lieu où l'on se trouve. Donc gros problème, parce que si la Terre est ronde, ça veut dire que les deux correspondent, ça veut dire que la verticale du lieu et le centre de la Terre, en fait, enfin les deux directions vont coïncider. Or en fait, la Terre n'étant pas tout à fait ronde, les deux ne coïncident pas, et puis les conclusions auxquelles arrivaient les scientifiques de l'époque étaient pas tout à fait bonnes. Donc il a d'abord fallu savoir comment est-ce qu'on pouvait déterminer la position d'une étoile par rapport à l'étoile polaire, donc savoir quoi prendre, le centre de la Terre ou la verticale du lieu. Et à partir de là, effectivement, on a pu déterminer que Newton avait raison.
Ce qu'il est important de dire, c'est de revenir surtout sur le contexte historique de l'époque. Pourquoi toutes ces expéditions au Pérou, au pôle, pour des mesures géodésiques, et c'était sous ordre royal. Et pourquoi le roi, la politique se mêlait aux recherches scientifiques ? C'est parce que de tout temps, le problème de la forme, de la nature du monde dans lequel on vit a été sujet de débats, voire de cruauté entre les partisans. Je dis cruauté en pensant à toutes les exécutions de l'Inquisition, de l'Église. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait conflit entre une pensée plutôt pré-socratique, avant Socrate, c'est-à-dire partisane d'une terre plutôt plate, et les Galiléens, par exemple, et pourtant elle tourne, et pourtant elle est ronde, un peu comme le titre de la conférence, et la Terre, c'est ça d'être ronde aussi, toujours ces citations de résignation. Et tout ça pour dire que l'Église croyait notamment, jusqu'à la date fatidique des expéditions vers les Indes de Christophe Colomb, que, eh bien, dans le cadre d'une Terre plate, on avait les bords du monde, les fins du monde étaient infernaux, un peu dans l'esprit de la civilisation romaine.
Moi, je pense qu'on marche un petit peu sur des œufs. Enfin, il y a des choses à... Bon, qu'est-ce qui l'emporte finalement sur tout ça ? Est-ce que c'est des réflexions philosophiques, scientifiques, économiques ? Si on regarde un petit peu le personnage de Louis XIV, on peut un petit peu se poser des questions. Alors, si on veut, pour accélérer un petit peu, si on veut s'en aller un petit peu plus loin, toutes ces mesures géodésiques, donc de géodésie moderne, qui ont commencé avec Jean Picard dans les années 1670 à peu près, vont avoir une sorte de point d'orgue. Et là, en fait, on perçoit l'événement historique, une sorte de point d'orgue avec les astronomes Méchain et Delambre, qui vont donc devoir déterminer le maître grâce à des mesures géodésiques. Donc non seulement il y a eu en fait des implications quant à la figure de la Terre, mais également quant à la définition de notre maître tel qu'on l'utilise aujourd'hui, donc qui a été fait en fait sous la Révolution dans les années 1790.
Donc on a réussi à définir même une unité de mesure à notre échelle grâce à l'échelle de la Terre.
Voilà, donc des mesures laborieuses comme ça et qui mettent en jeu tout un tas de personnages et pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui vont en fait traverser des générations ont des implications énormes, folles.
Importantes. Donc, mais on reviendra après Capaillère et Jacques Capaillère, on a encore un bout de son interview encore bon, au niveau de l'histoire, le rôle d'un historien. Je vous rappelle que vous pouvez gagner une place pour la conférence de demain qui n'a rien à voir avec l'histoire. L'histoire entre guillemets humaine, c'est l'histoire de l'univers. Donc là, l'échelle humaine, on est un petit grain de sable. Donc là, ça va être la conférence demain, l'histoire de l'univers par Jean Audouze à l'auditorium. Vous pouvez gagner des places. Il suffit de nous téléphoner au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Il reste encore quelques places à gagner. Vous répondez à la question, quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers? Et vous répondez à la question et vous avez gagné des places. Tout de suite, une petite pause musicale. C'était Constellation d'Aurore Borealis. Vous êtes sur Alternante avec la Société d'Assemblée Nantes en direct, 98.1 FM à Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places toujours pour la conférence. Ils ont resté, je crois, ils font signe en régie que oui. Donc, vous pouvez gagner des places pour la conférence de Jean Audouze sur l'histoire de l'univers qui va se dérouler demain soir, donc à 21h à l'auditorium du Conservatoire. Pour ça, vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, et vous répondez à la question, quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers? Normalement, ça devrait être assez simple. Tout de suite, nous allons retrouver les Actu Astro avec Stéphane Néné. Alors Stéphane, c'est ta première à la radio, donc soyez indulgents les auditeurs. À toi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
On lit dans la presse que la station orbitale Mir a obtenu un nouveau répit d'une semaine. Elle sera précipitée dans l'atmosphère entre le 13 et le 18 mars prochain, puisque l'agence aérospatiale russe estime que les conditions atmosphériques devraient alors permettre à la station de mieux se consumer en entrant dans l'atmosphère. Je me demande comment on peut prévoir cela, vu qu'il est difficile de connaître le temps à 5 jours.
Ah, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Ouais, c'est...
En tout cas, ces débris tomberont dans l'océan Pacifique, à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.
Oh, c'est pas grave. Ah, le Chili, donc, par contre, faut faire gaffe, il y a le VLT là-bas. Faut pas qu'il nous touche à notre virage télescope.
À mi-chemin, donc le ciel ne tombera sur la tête de personne.
Il n'y a pas de Beauville entre les deux.
Le problème que j'aimerais soulever, c'est quelle est la pollution du Pacifique avec toutes ces sondes qui retombent depuis l'étoffe des héros.
Bon, mais par rapport à l'Erika.
Oui, c'est vrai. Hein, c'est plus propre.
Voilà.
Mais sa remplaçante, la station spatiale internationale, est en construction. La navette américaine Atlantis lui a apporté un quatrième module, le laboratoire Destiny. Gageons que cette station aura un destin aussi brillant que celui de Mir. Cette station devra être terminée en 2005 ou en 2006, mais je parierais plutôt pour 2006, pas vous?
Ouais, ça c'est clair. C'est maintenant qu'ils arrivent à la finir. Attends, c'est vrai qu'on parlera de Mir dans la prochaine émission, dans la chronique histoire.
Donc, une fois terminée, cette station internationale sera un laboratoire spatial où des astronautes se relaieront pour effectuer des expériences biologiques ou astronomiques, mais aussi observer la Terre. Et les premiers Européens à bord de la station seront Claudie André Dehaye et ensuite le spationaute Philippe Perrin qui effectuera son baptême de l'espace.
Ah oui, parce qu'il n'est pas encore parti. Mais, ouais, Claudie, elle est déjà partie, mais pas Philippe. Ouais.
Tout à fait, oui. Mais vous savez que le soleil nous apporte pas que de la lumière et de la chaleur. Parce que le vent solaire est un flux de particules qui ont des propriétés électriques et dont l'influence sur la Terre est parfois très belle. Ce sont les magnifiques aurores polaires ou alors néfastes, causant des pannes dans les réseaux électriques. L'Agence spatiale européenne a annoncé que les quatre satellites de la station européenne Cluster sont opérationnels. Ils ont pour mission d'étudier ce vent solaire, justement. On espère recueillir des informations utiles pour éviter certaines perturbations occasionnées dans les télécommunications, mais j'ai bien peur que ces satellites soient eux-mêmes gênés par ce qu'ils observent.
Ouais, ça qui est un peu dur, c'est qu'ils font des satellites pour regarder quand on est perturbé par le vent solaire, mais il ne faut pas qu'ils le soient eux-mêmes. Bon, on verra bien, ça doit marcher, c'est fait par l'Europe, donc ça doit marcher. On va être optimiste.
Il arrive que les astronomes soient romantiques, Ils ont découvert en 1898 un astéroïde qu'ils ont baptisé Eros. Et l'an dernier, la NASA a envoyé une petite sonde qui s'appelle Mir pour lui faire la cour. Il s'agit du premier rendez-vous entre un envoyé de l'humanité et un petit corps céleste. La sonde Mir a appris à connaître Eros en l'observant sous toutes ses coutures.
D'ailleurs, Stéphane nous en avait parlé l'année dernière. Ça avait tombé à peu près à l'époque de la Saint-Valentin que c'est arrivé, c'est ça?
Oui, le fameux palais amoureux entre Mir et Eros, ouais. Ça avait été fantastique.
Bon, alors attends, là, ça se concrétise.
Oui, ça continue. Parce que, après avoir
ça devient
pris,
plus chaud, écoutez.
Après avoir pris ses mensurations, c'est le miracle.
Vas-y, continue.
Le miracle de l'amour s'est produit. La sonde avait été conçue pour rester en orbite autour d'Eros, mais les astronomes de la NASA n'ont pu résister à son charme. Ils ont alors décidé de faire descendre Mir sur la surface d'Eros, 2 jours avant la Saint-Valentin, justement.
Alors, ce qui est la folie, c'est que je ne sais pas si tu vas le dire, mais Mir, comme tu l'as bien dit, elle n'est pas prévue pour atterrir sur rien du tout. Donc, elle n'a pas de pied, bref. Et
mais pourtant, la sonde s'est posée avec plaisir, et elle a continué d'émettre vers la Terre, après avoir fourni de nombreuses informations sur l'astéroïde. Mais elle suscite de nouvelles questions, comme toujours. Ce n'est pas encore aujourd'hui que l'on percera les mystères de l'amour.
Non, ça c'est clair. Non, c'est vrai que pour revenir un peu sur cette sonde, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que les Américains, ils ont posé une sonde sur Mars qu'ils n'ont jamais retrouvée. On ne sait pas si elle est arrivée ou pas. Et là, en fait, ils posent sur un astéroïde, une sonde qui n'est pas prévue pour atterrir. Ils arrivent à la faire atterrir, ce qui est assez miraculeux. Et le pire, en plus, c'est que ça fout, entre guillemets, on va le dire, le bordel partout. Parce qu'en fait, elle a pris des photos en se rapprochant au moment de se poser. Donc des photos qui sont de l'ordre du centimètre. Et en fait, il y a des trucs qui n'étaient pas du tout prévus, quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a de la poussière sur le satellite. Apparemment, ça, c'est la grosse révolution, en fait. C'est un gros coup médiatique et surtout scientifique. C'est vrai que c'est impressionnant qu'on arrive à faire poser une sonde qui n'était pas du tout prévue pour ça, quoi. C'est bien.
Enfin, vous savez que les astronomes sont aussi des gastronomes. J'ai lu une recette de cuisine pour une soupe un peu particulière.
Vas-y, alors.
Prenez de l'ammoniac, du monoxyde et du dioxyde de carbone,
ouais,
de l'eau et du méthanol, et réfrigérer le tout à moins 263 degrés Celsius.
Pour avoir un bon frigo, quoi.
Voilà, assez puissant.
D'accord. Bon, okay.
Bombardez ensuite ces glaçons de rayons ultraviolets,
ouais,
puis plongez-les dans l'eau.
D'accord.
Vous n'obtiendrez pas un escargot tout chaud, mais vous verrez alors...
Il a osé la faire.
Mais vous verrez alors apparaître... des centaines de molécules complexes dont certaines s'apparentent à des membranes de cellules.
Ah.
Cette expérience sérieuse avait pour but de créer en laboratoire des conditions proches de celles de l'espace interstellaire. Il y a eu un résultat assez surprenant. Certaines molécules vivantes semblent pouvoir se former dans l'espace. Mais n'allez pas imaginer des centaines de petits hommes verts partout.
Non.
Parce que les chercheurs ne s'appellent pas Frankenstein, ils n'ont pas réussi à prouver que ces molécules peuvent être douées de vie. Hélas, les grandes rencontres familiales interplanétaires devront donc attendre un peu.
Bon, on va se contenter d'Eros, en fait.
Ça fait.
Donc c'était les grandes nouvelles du mois, entre guillemets. Donc la grosse info, c'est Eros qui s'est fait prendre un petit bisou par Nir. C'est un peu ça, la grosse info. Puis Stéphane, quand même, qui a fait ses premières... voilà, radio, c'est quand même bien.
Stéphane.
C'est bien, Stéphane.
Merci.
Tout de suite, nous allons retrouver la suite de la conférence Jacques Capayard qui a été faite, sa conférence lors de la semaine de l'astronomie. Je vous rappelle que si vous nous téléphonez au 02 40 93 26 62 en répondant à la question quel est le nom populaire de la théorie de la création de l'univers, vous gagnez des places pour la conférence de demain, ce qui est sur l'histoire de l'univers par Jean Andouze. Donc là, on va passer la suite de la conférence de Jacques Capayard.
Dernier volet. De cette interview, et cette fois sur quelque chose d'un peu méconnu. On va essayer de raisonner sur l'histoire des sciences en général, l'épistémologie, et c'est méconnu, mais pourtant c'est si important, et c'est ce qui fait toute la morale de la science et toute une introspection des scientifiques sur eux-mêmes et leur travail. On écoute tout de suite.
Alors, on voit bien que finalement la science et l'astronomie n'avancent pas de façon linéaire et qu'il est difficile de juger avec nos yeux d'hommes du 20e et du 21e siècle de juger les travaux des astronomes des siècles passés. Comment est-ce que vous voyez le travail d'un historien des sciences? Est-ce qu'il est simplement là pour relater des faits ou est-ce qu'il prend part, lui, au débat?
L'historien des sciences, il est là bien sûr pour retracer l'histoire des événements scientifiques, du déroulement, de l'avancement de la science qui justement ne progresse pas toujours dans le même sens. Il y a des erreurs, il y a des retours en arrière. Et il est là justement pour le montrer, pour montrer que l'activité scientifique est une activité d'abord difficile, qu'elle est faite de traits de génie, qu'elle est faite aussi de travaux plus subalternes, mais utiles et très utiles également, indispensables, et qu'il ne faut donc pas avoir une vision de la science comme celle que l'on peut avoir en ouvrant un manuel de physique, par exemple, ou d'astronomie.
Donc si on veut, par exemple, plagier Voltaire, qui lui-même se moquait de Leibniz dans Candide, on pourrait dire qu'on a à l'heure actuelle la meilleure des sciences possibles.
Oui, on peut dire ça, mais en sachant que la meilleure possible est toujours susceptible d'amélioration, de progrès. Le progrès des sciences, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas par définition même de l'activité scientifique.
Est-ce que dans l'histoire des sciences, qui est une branche de l'histoire avec un grand H en général, est-ce que les historiens maintenant qui étudient plus l'aspect culturel, politique, social et économique de l'histoire, est-ce que vous avez des interfaces avec eux, dans la mesure où, par exemple, pour expliquer telle illumination de tel scientifique à une époque donnée, c'était un contexte historique donné qui permettait, par exemple, à Galilée, par exemple, ce qui a mis malheureusement un terme à ses recherches, le contexte historique, c'était l'Inquisition. Alors, est-ce qu'à l'inverse, vous servez, vous travaillez quelquefois avec le centre François Viette, avec d'autres historiens, mais sur l'aspect culturel, politique, social de telle époque? Est-ce que vous êtes en collaboration en dehors de l'histoire des sciences en tant que telle, mais dans le cadre de l'histoire en général? Est-ce que vous travaillez avec ces gens-là?
Eh bien, disons que ce n'est pas toujours le cas, parce que l'histoire des sciences est quand même un domaine bien particulier de l'histoire, mais il est certain que le contexte historique, sociologique d'une période donnée est très important. On ne peut pas faire d'histoire des sciences sur une époque sans savoir comment vivaient, comment pensaient ces gens-là, quels étaient leurs problèmes, quelles étaient les idées qui émergeaient, même s'il ne s'agit pas d'idées à proprement scientifiques.
Alors, je crois que vous travaillez aussi donc avec des doctorants du centre François Viette à propos de l'histoire des observatoires. Quel est le but d'étudier un observatoire ou d'étudier un réseau d'observatoires?
Eh bien, l'histoire des observatoires, oui, c'est une activité assez récente du centre François Viette, mais c'est extrêmement intéressant parce que cela met en jeu divers facteurs, divers acteurs, et en particulier très souvent des acteurs locaux, c'est-à-dire la municipalité de la ville où est implanté l'observatoire, l'université. Et donc c'est tout. Ici, on ne peut pas faire. Ce n'est pas de l'histoire des sciences pures, c'est plutôt une histoire des rapports entre diverses institutions qui ont des intérêts qui ne convergent pas toujours, et c'est ça qui est passionnant. Et il faut, pour faire cette histoire, il faut bien sûr dépouiller les archives municipales, départementales, pour aller voir comment les choses se sont mises en place et quels sont les problèmes qui se sont présentés, les obstacles, comment on les a résolus ou comment on ne les a pas résolus.
Un travail d'historien, quoi.
Exactement.
Oui. Alors nous, la Société d'Astronomie de Nantes, nous sommes des amateurs, amoureux de la science. Est-ce que, à travers les âges, vous avez des documents, des archives justement, qui vous donnent accès un petit peu à l'histoire de l'amateurisme en sciences. Est-ce qu'il y a des travaux d'amateurs que vous avez pu étudier au cours de...